Chapitre 21. Le dernier Atlante. Fière de la libéralité de son père et heureuse de l'approbation qu'elle lisait dans tous les yeux, Atlantis avait suivi, d'un regard complaisant et charmé, la distribution des présents somptueux. Mais son tact délicat lui dit qu'il restait encore quelque chose à faire. « Et les autres ? » dit-elle. « Ils sont aussi nos hôtes, père. Ne leur laisserez-vous aucun souvenir ?»«
Où sont-ils ? »
dit Cariclès.
« Qu'on me les amène. Si je les ai négligés, c'est que rien ne les rappelait à ma vue. Je te loue, ma fille !»
continua le vieillard en attachant sur Atlantis un regard de tendre fierté.
« Je te loue de cette pensée. Tu débutes à peine dans la vie sociale et déjà tu sais montrer une aimable prévoyance. Tu cherches à épargner à tes frères des froissements possibles. Tu songes même à prévenir leurs souhaits. Va, tu peux hardiment affronter la famille humaine. Tu n'y seras pas déplacé. Et vous qui l'accueillez à votre foyer, recevez-la avec confiance. Elle vous fera honneur. »
Sur ces entrefaites, Kermadec étant allé chercher le prince et son acolyte, qu'il avait trouvé, l'un inscrivant rapidement sur un carnet des notes et des croquis, l'autre furetant vaguement ça et là. Cariclès s'adressa à eux avec courtoisie.
« Je viens de prendre congé de tous mes hôtes, » dit-il à Monte Cristo. « Chacun a reçu de moi un témoignage d'affection ou d'estime. Je veux aussi vous laisser un souvenir. » Acceptez cet anneau. La matière et le travail en sont le moindre mérite. Ce qui en fait le prix, c'est l'histoire qui s'y rattache. Il y a plus de 24 siècles qu'on le garde dans notre maison comme une preuve de l'inexorable fatalité du sort. Polycrate, prince arrogant et cruel, avait vu, malgré ses forfaits, un succès inouï favoriser toutes ses entreprises. Craignant qu'une telle prospérité lui fût fatale, que les dieux, jaloux du bonheur des mortels, ne lui fissent expier chèrement sa fortune, il résolut de leur offrir un sacrifice propitiatoire, et ayant choisi cet anneau comme un présent digne de Neptune, il le jeta à la mer en suppliant le dieu puissant d'avoir son hommage pour agréable. À quelques jours de là, ayant ouvert un turbot que son cuisinier venait de placer devant lui, le prince trouva son anneau dans le ventre du poisson. Il sut ainsi que le dieu avait refusé son offrande. Peu de temps après, il périt, en effet, massacré au milieu d'une émeute de son peuple révolté. Un des nôtres épousa une femme de sa race qui lui apporta dans son écrin l'anneau du tyran. « Accepte-le, prince de Monte-Cristo. » Et si jamais les fumées du succès obscurcissaient ton cœur ou ton entendement, rappelle-toi l'histoire de Polycrate. »
Peu soucieux de la péroraison, le prince reçut son anneau avec une joie mal déguisée.
« Ah ah, voici un document »
murmura-t-il, dévoré du désir d'étonner les masses à son retour par le récit des choses merveilleuses qu'il avait vues. Il était déjà tourmenté de la crainte de trouver des sceptiques, ce fléau des Gascons. Mais voici une preuve où il fallait renoncer à rien prouver. Cependant, Cariclès venait de remettre à Sacripanti quelque autre joyau précieux qui avait fait passer dans les yeux convergents du personnage, connaisseur en pierre fine, un éclair de triomphe et de plaisir.
« Sacripanti, mon ami, » se disait-il, « te voilà enfin hors d'affaires, ô voyage béni, ô chance inespérée. C'en est fait, je renonce au métier d'interprète, je me mets en boutique. Cette plaque d'émeraude vaut 50 000 francs comme un sou. À peine arrivé à Paris, j'achète un fonds de marchandises d'Orient, je loue aux alentours du palais royal, je m'établis turc. Mon rêve, ô chance inespérée, ô vieillard surprenant. « Mais comment peut-on ainsi dissiper son bien? Voilà ce qui me passe !»
Jubilant, saluant jusqu'à terre, le capitaine sortit à reculons. Monte Cristo le suivit bientôt et, après un dernier regard de regret, Madame Caudal et sa nièce se retirèrent, ainsi que Patrice, dans la chambre voisine, craignant que leur présence fatiguât le mourant et voulant, en tout cas, le laissait libre pour ses adieux suprêmes à sa fille. Pendant un assez long intervalle, Chariclès ne dit rien. Il ne dormait pas. Son œil vif et profond témoignait de l'éveil de toutes ses facultés. Il méditait profondément et, respectueux de son silence, Atlantis et Renée se gardaient de le rompre par un signe ou par un mouvement.
« Je crois, dit-il enfin, n'avoir rien oublié. Mes instructions touchant le tunnel ont été bien comprises. »
« Parfaitement, dit René.
« Vous partirez une heure après ma mort, qui ne peut tarder.
Nous vous obéirons. »« Père, dit Atlantis d'une voix suppliante, souffrez que votre fille vous adresse une prière. »«
Parle, ma fille. »«
Pourquoi vouloir attendre? Pourquoi ne pas venir avec nous? Ne vaudrait-il pas mieux que nous vous emportions? Peut-être l'air de la terre vous donnerait-il la vie ?»«
Non, ma fille. » dit Chariclès. Mon voyage est accompli et doit se terminer ici. Je veux y dormir mon dernier sommeil, y être enseveli sous les eaux de cette mer protectrice où j'ai vécu une vie simple et calme. Je ne blâme pas ta prière, mais je ne saurais y souscrire. Ma volonté est que, une heure après ma mort, une heure, pas davantage, vous partiez par la route que je vous ai révélée. À mi-chemin, vous trouverez une salle de halte où vous prendrez un repas léger avant de vous remettre en route. Une fois à la porte de cristal, vous l'ouvrirez aisément et tout aussitôt, vous m'entendez bien, tout aussitôt, vous sortirez au jour sans attendre ce qui se produira dans le tunnel.
Comme il disait ces mots, un sourire énigmatique passa sur les traits émaciés du vieillard. Ils reprirent presque aussitôt leur noble sérénité coutumière.
« Tout est dit, ajouta-t-il, je ne parlerai plus. Atlantis, va visiter encore une fois la demeure où tu t'es éveillé à la vie, qui a abrité ton enfance et vu se développer les grâces de ta jeunesse. Va dans ce jardin où chaque jour nous nous sommes promenés ensemble. Emmène ta nouvelle sœur, sœur elle-même des grâces, cueillir les fleurs dont ta main pieuse aimera à orner ma couche funèbre. De nouveau, je te bénis, je vous bénis toutes deux. Laissez-moi maintenant en communion avec moi-même, je ne parlerai plus. »
Stricte observatrice des ordres paternels, Atlantis, ayant déposé un baiser sur le front du vieillard, se disposa à passer au jardin, après avoir communiqué à Hélène la triste et gracieuse mission qui lui était donnée. Et Hélène, toute heureuse d'avoir été nommée dans un moment si solennel, se mit en devoir de l'aider de son mieux à choisir la moisson fleurie. René, Patrice, Madame Caudal et Kermadec faisaient leurs préparatifs, non sans veiller à ce que le mourant eût toujours quelqu'un à portée de l'entendre, mais en respectant la solitude dont il lui plaisait d'envelopper sa dernière heure. Avant de se rendre au jardin, les deux jeunes filles, voulant suivre l'ordre indiqué par Chariclès, commencèrent par dire adieu successivement aux divers appartements du palais, et ce pieux pèlerinage fut un enchantement pour Hélène. « Quoi ?» se disait-elle, tandis que la jeune grecque la faisait passer de sa propre chambre, exquis et craint digne de cette perle, tout de nacre et de draperie diaphane, aux autres pièces de la somptueuse demeure, salle de travail, salle de repos, salle à manger, salle de pur ornement, puis, de là, aux régions de service, salle de cuisine, offices variés, bains, ateliers divers, etc. « Quoi ?» se répétait Hélène éblouie. « Nous parlons de civilisés et raffinés, nous croyons avoir quelque chose à leur enseigner, mais c'est nous qui avons tout à apprendre d'eux, en vérité. » C'est elle qui pourra trouver rudimentaire nos arrangements intérieurs. Heureusement que tante Alice est une maîtresse femme, que le bon ordre et la propreté règnent en souverain chez nous, et que nous pouvons sans rougir montrer nos offices et nos ustensiles. Sans cela, je serais humiliée, positivement, à l'idée du tour du propriétaire. Du reste, me voilà bien avec mes préoccupations de rivalité bourgeoise. Est-ce qu'Atlantis, ce poème vivant, va s'amuser à dénigrer ce qu'elle trouvera sous notre toit? Cher enfant, elle ne verra, j'en suis sûre, que le beau côté des choses, et tous ses jugements seront indulgents et adorables comme elle. Arrivée à ce point de ses réflexions, Mademoiselle Rieux sauta au cou de sa compagne qui, certes, n'avait pas la moindre idée du motif de ces tendresses soudaines, mais qui les accepta sans en chercher la raison et ne se fit pas scrupule de les rendre avec usure. Les jeunes filles étaient parvenues sous un péristyle de marbre rose qu'Hélène ignorait encore et qui ouvrait sur le jardin particulier d'Atlantis. Mademoiselle Rieux s'arrêta émerveillée. Cela dépassait toutes les gloires, toutes les splendeurs déjà vues. Retrait embaumé qui avait appartenu à sa mère et avant elle à son aïeul, à toute une série d'Atlantides, cet enclos privilégié était vraiment un jardin enchanté. Dès l'entrée et faisant face au portique, une large avenue de rosiers géants s'ouvrait et déroulait au loin l'infinie variété de ses fleurs. Sur les pelouses, des corbeilles de roses. Les allées latérales menaient à des massifs de roses, plates-bandes, parterres, grottes, bosquets, sièges rustiques, voûtes ombreuses. Tout était planté, enveloppé, submergé de roses, mais point de bariolage violent. Du rose à peine ébauché à la pourpre la plus éclatante, et du sombre velours incarnat au blanc pur de la rose mousseuse, l'œil était conduit par degrés insensibles. Aucune combinaison bizarre ou criarde n'affligeait le regard, et si parfois, rarement, par contraste habile, au pied d'un buisson flambant d'églantines rouges, la rosetée courbait son front pâle, on sentait, sous cet arrangement capricieux, la main d'un artiste ou d'un poète. « Asseyons-nous ici, » dit Atlantis. C'était le jardin de ma mère. Bien souvent m'a rapporté Cariclès. Elle y venait méditer, mélancolique, et comme frappée du pressentiment de sa fin prochaine. « Vous l'avez perdue toute jeune ?» demanda Hélène timidement. « Je ne l'ai jamais connue. »« Moi non plus, » dit Hélène, dont les yeux se mouillèrent. « Je n'ai jamais connu ma mère. Et moins heureuse que vous, Atlantis, j'ai perdu mon père quand j'étais encore au berceau. » Mais Tantalis a su me rendre tout ce que j'avais perdu. Elle sera aussi votre mère. Elle est si bonne. Oui, dit la jeune grecque. Je me sens puissamment attirée vers elle. Mais ne nous attardons pas. Cueillons les fleurs du jardin qui doivent orner la couche funèbre de mon père. C'est lui qui l'a ainsi ordonné. Longtemps elles parcoururent massifs et bosquets, cherchant les plus belles roses. Coupant avec des ciseaux d'or celles qui paraissaient dignes d'être choisies, n'emportant rien qui ne fût exquis et sans défaut. Bientôt les brassées de fleurs furent trop pesantes à leurs bras délicats. Il fallut aller les déposer sur un banc de mousse, et enfin, leur moisson terminée, appeler René et Étienne pour l'emporter. « Il était temps, » dit le docteur tout bas à Hélène. « Je viens de m'approcher de Cariclès. Il s'éteint peu à peu. » On ne saurait voir une fin plus paisible et plus auguste, mais elle ne peut tarder. « Courage, cher Atlantis, » disait René à sa fiancée. « Une cruelle séparation vous attend, mais rappelez-vous que je partage chacune de vos peines, que je voudrais pouvoir les prendre toutes. »«
J'aurai du courage, je vous le promets, » répondit la jeune fille avec sa simple droiture. « Vous l'avez vu, René, dans ces suprêmes heures, si pleines pour moi d'émotions poignantes, » Deux ou trois fois j'ai faibli. Je me suis répandue en pleurs, en gémissements. La chose a déplu à mon père. Il m'en a doucement réprimandée. Je saurais mieux lui obéir. Je ne troublerai pas l'heure solennelle par les éclats de ma douleur.
On était parvenu auprès du lit du mourant. Les fleurs avaient été placées sur une table basse. Sans perdre de temps, Atlantis commença à les disposer autour de lui d'une main légère. Hélène les lui passait à mesure. De temps en temps, elle s'arrêtait pour donner un regard d'amour à ce beau visage de demi-dieu au repos. Ce visage, le seul qu'elle eût connu pendant si longtemps et qu'elle allait perdre pour toujours. Alors une larme se détachait de ses yeux et allait se placer comme une goutte de rosée au cœur de quelque rose. Mais pas une contraction ne déformait ses traits. Aucun sanglot ne soulevait sa poitrine. La beauté, la paix, l'harmonie étaient seules admises aux funérailles de Cariclès. Bientôt les apprêts funèbres furent terminés.
Lorsqu'il ne resta plus une fleur à déposer sur la couche, Hélène se retira un peu en arrière auprès de la bonne Madame Caudal, qui, la figure dans son mouchoir, fondait discrètement en larmes. René s'était rapproché d'Atlantis, debout à la droite de Cariclès. Le docteur avait pris la main du mourant et cherchait les dernières pulsations de la vie qui s'éteignait. Soudain, Cariclès ouvrit les yeux. Son regard trouva celui de sa fille attaché avec intensité sur son visage. Il eut un sourire paisible, puis ses paupières retombèrent.
« Tout est fini, » dit le docteur d'une voix oppressée.
Quelques minutes s'écoulèrent dans un silence religieux. Chacun était en proie à la mystérieuse horreur qui suit le passage de la terrible visiteuse. Atlantis fut la première à secouer cette torpeur. Dégageant sa main de celle de René, qui lui disait sa pitié par une fraternelle étreinte, elle quitta le bord de la couche et, détachant du mur une harpe d'or, elle vint se placer en face du lit mortuaire. Pendant un instant, elle demeura ainsi, la tête penchée, rassemblant sans doute ses idées dans une attitude d'une grâce inexprimable. Puis, ses doigts délicats commencèrent à errer sur les cordes, en tirèrent des accords incertains. Enfin, elle releva le front et sa voix pure se mêla à la phrase musicale maintenant définie et formée. En paroles simples et graves, elle dit les grandeurs de sa maison, les gloires, les hauts faits de cette antique lignée. Elle dit la longue prospérité des Atlantides. Ensuite, le fléau s'abattant sur eux, sa mère moissonnée dans sa fleur, son berceau déserté, le vieillard et l'enfant restés seuls de cette race illustre. Puis elle dit l'histoire de Cariclès, son savoir, ses vertus, sa puissance. Enfin, sa mort auguste et noble comme sa vie. Voilà donc qu'il les avait quittés. Son esprit errait déjà sur les bords mystérieux du royaume des ombres. Déjà, sans doute, ses ancêtres l'avaient reconnu et salué, avaient accueilli parmi eux le dernier rejeton de l'honneur de leur race. Pour elle, fleur détachée de cet arbre antique, une autre destinée lui était échue. Désormais, elle connaîtrait d'autres rites, d'autres lois seraient les siennes, elle aurait une autre patrie, mais elle les embrasserait avec joie, car c'était pour suivre son époux et son père l'avait ordonné. Tout cela avait été chanté sur un ton de douce mélopée, véritable mélodie infinie et qui, loin d'être la musique de l'avenir, est proprement celle du passé. Atlantis tira un accord final de sa lyre et, l'ayant laissée retomber, elle se tut. Les derniers devoirs étaient remplis. Cariclès avait été obéi de point en point. L'heure était venue de s'éloigner. S'entendant d'un coup d'œil, Étienne et René résolurent de brusquer le départ. Perdue dans sa contemplation, la jeune grecque semblait ne rien voir de ce qui se passait autour d'elle. René prit doucement sa lyre d'or, la suspendit au mur et, menant la jeune fille près de la couche de Cariclès, il lui permit de baiser encore sa main pâle. Après quoi, il saisit avec autorité le bras de sa fiancée et, le passant sous le sien, se dirigea avec elle vers le chemin de sortie. Elle obéit sans résistance. Exactement une heure après que le vénérable Cariclès eut rendu le dernier soupir, les voyageurs s'engageaient dans le tunnel.